Chers frères et sœurs en Christ, chers amis, le Seigneur est toujours le même, il ne change pas. Non seulement il est le Tout-Puissant, toujours capable de faire des miracles et d'accomplir des merveilles, mais son désir de les réaliser est toujours aussi grand. Mais la grande question est, qu'en est-il de notre propre désir, de nos propres aspirations, de notre attachement au Seigneur, de notre consécration, de notre volonté de le servir, de faire sa volonté à lui, de notre amour pour lui, de notre recherche de communion avec lui. Le témoignage qui va être présenté à l'instant nous rappelle les promesses que le Seigneur accomplit pour ses serviteurs et par ses serviteurs, suivant sa parole qui ne change pas. Que nous puissions en saisir les leçons pour nous-mêmes, pour une pleine bénédiction sur nos vies. À l'âge de 75 ans, le pasteur Lewy Petrus, qui a été le grand apôtre et fondateur du mouvement de Pentecôte en Suède, fut atteint d'un infarctus. Il souffrait également à cette époque de calculs biliaires. À sa demande, le pasteur George Gustafsson vint prier pour lui à l'hôpital dans la banlieue de Stockholm. Alors qu'il priait, il reçut un message prophétique, annonçant que le grand homme de Dieu allait guérir et vivre encore 15 ans, jusqu'à ses 90 ans, ce qui allait effectivement arriver. Le pasteur Lewy Petrus guérit rapidement de cette double maladie. Cependant, quelques 7 ans plus tard, à 82 ans, il tomba à nouveau malade durant un voyage au Portugal et dut être transporté en ambulance jusqu'en Suède. Il fut hospitalisé pour subir une opération. Il reçut là encore la visite du pasteur Jörg Gustafsson, qui était accompagné de 2 autres serviteurs de Dieu. Ils trouvèrent le vieux pasteur très fatigué et découragé. « Pourquoi es-tu triste ? » lui demanda Jörg Gustafsson. « Ne te souviens-tu pas ce que je t'ai prophétisé à ton égard ? Tu ne mourras pas, tu guériras. Il te reste encore 8 ans à vivre. Dieu a dit que tu auras 90 ans. »« Oui, oui, » répondit le pasteur Petrus, un sourire là aux lèvres. Les frères prièrent pour lui, et le lendemain, Jörg rencontra 2 des filles de Lewy Petrus. « Qu'est-ce que tu as fait à papa hier ?» demandèrent-elles. « Avant, il était si triste et découragé. » Mais après votre visite, il avait retrouvé tout son allant comme un poulain fougueux. Cela se passait en septembre et pour quelques raisons, les médecins décidèrent de reporter l'opération après les fêtes de Noël et de fin d'année. Pendant ce temps, Lewy Petrus put rentrer chez lui. À son retour à l'hôpital, après le 6 janvier, on l'examina à nouveau, mais on ne trouva plus rien. 2 médecins, le médecin-chef et l'interne, l'examinèrent et constatèrent qu'il était guéri. Alors survint le professeur qui avait suivi le pasteur Petrus depuis son hospitalisation et qui devait l'opérer le lendemain. Lorsqu'il entendit ses collègues déclarer que Lewy Petrus était guéri de son problème de santé, il ne voulut pas les croire. « Ah non, mes amis, dit-il, j'ai vu dans quel état il était, il faut que nous fassions quelque chose. » Ainsi, le lendemain, le pasteur dut se soumettre à un examen supplémentaire où les 3 médecins étaient présents. Ils ne purent que constater qu'il était complètement guéri. Le pasteur Petrus put reprendre son travail et alors qu'auparavant il avait souffert quotidiennement, il n'eut plus jamais aucun problème. Puis, les années ayant passé, il fut atteint d'une paralysie de la main au moment où il rédigeait le 4e et dernier tome de son œuvre littéraire sur Jésus, le fils du charpentier de Nazareth. Malgré les prières de beaucoup, rien ne se passa et il fut de plus en plus découragé. Un jour, Jörg Gustafsson était chez lui avec d'autres frères dans la foi. Et ils prièrent pour lui, mais sans qu'aucun changement n'intervînt. Jörg rentra dans sa ville de Jönköping, au sud de la Suède, mais dès le lendemain, il reçut un appel téléphonique du pasteur Petrus qui voulait qu'il vienne le voir encore une fois. « Mais j'étais chez toi hier, » dit Jörg Gustafsson. « Oui, mais il faut que tu reviennes et que tu pries en moignant d'huile. »« Mais je l'ai fait hier. Aujourd'hui, je ne peux pas venir. J'ai des réunions de comité auxquelles je dois participer. » Ah oui, ces rassemblements et ces réunions de comité, dit alors le pasteur Petrus, ont détruit bien des prédicateurs, et presque moi aussi. Maintenant, il faut que tu viennes. Et le pasteur Gustafsson dut reprendre le train pour Stockholm. Quand il entra chez Lewy Petrus, celui-ci lui dit simplement, hier, il y avait tellement de monde ici que le Seigneur n'a pas pu agir. Mais maintenant, c'est toi et moi qui allons nous placer devant Dieu. Lorsqu'ils prièrent ensemble, le Seigneur intervint immédiatement. Une demi-heure après la prière, Lewy Petrus était devant son bureau. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas pu écrire. il saisit son stylo sous les yeux de York, mit en place sa feuille de papier et commença à écrire de sa belle écriture habituelle. L'instant suivant, il se tourna vers le pasteur Gustafsson. « Maintenant, tu peux partir, » dit-il simplement, « parce que je dois terminer mon livre. » Il était tellement pressé d'achever son travail qu'il ne prit même pas le temps d'offrir un café à son ami, ce qui était absolument contraire à ses habitudes. Le pasteur Petrus put terminer dans les temps qui suivirent la rédaction de ses 4 volumes sur le fils du charpentier et poursuivit son ministère fécond jusqu'à ses 90 ans. Ce ne fut en effet que quelques mois après son 90e anniversaire que le Seigneur le reprit auprès de lui. La prophétie du pasteur Gustafsson s'était accomplie exactement comme il l'avait donnée. Amen. Je crois qu'il y a plusieurs leçons précieuses qui ressortent d'un témoignage aussi remarquable. Alors tout d'abord, bien sûr, le fait que le Seigneur est tout-puissant pour faire des miracles en faveur de tous, et plus spécialement en faveur des croyants, de ses serviteurs et servantes qui le servent. Ensuite, une deuxième leçon, je crois, ce n'est pas parce qu'on est même un très bon serviteur de Dieu qu'on est forcément à l'abri des attaques, de la maladie ou du diable. Il peut y avoir des tendances à la fatigue et au découragement. Mais voyez combien le Seigneur est fidèle pour ceux qui se confient en lui. Et puis, une troisième chose, voyez encore que le Seigneur veut que ses serviteurs et ses servantes soient utiles et participant à son œuvre et à ses plans jusqu'au bout de leur existence terrestre. Il a préparé pour chacun et chacune de nous, d'avance, de bonnes œuvres afin que nous y marchions, que nous les pratiquions. Ayons donc à cœur de bien savoir quelle est la carrière qu'il veut pour nous et que nous puissions ainsi y aller de l'avant jour après jour. Enfin, l'insistance est clairement mise sur la prière de la foi, qui est aussi, bien sûr, une recherche de la communion avec le Seigneur, une lutte et un combat. C'est la prière fervente du juste qui est d'une grande efficacité. Et nous voici donc encouragés aussi à continuer avec persévérance, à nous attacher aux nombreuses et précieuses promesses du Seigneur à ce niveau qui nous sont tellement vitales pour notre vie de foi. Amen. Voilà, frères et sœurs, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans l'Évangile de Luc au chapitre 17. Et nous lirons là simplement un verset qui nous parle d'une situation et qui nous parle de 2 personnes, en fait. On va prier déjà. Seigneur, nous te remercions de pouvoir ainsi nous confier en toi, et nous te remercions de pouvoir entendre des témoignages qui sont à la fois pour nous des enseignements et des encouragements. Et merci parce que ce qui a pu leur arriver, eh bien, sont aussi des choses au travers desquelles nous pouvons nous-mêmes être fortifiés et nous-mêmes aller de l'avant. Et béni sois-tu pour toute grâce que tu répands, béni sois-tu pour l'œuvre que tu fais encore dans nos vies par ta parole, nous te glorifions. Amen. Voilà, frères et sœurs, dans l'évangile de Luc au chapitre 17 et au verset 28, il est marqué « Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. » Vous savez qu'il est question là, dans ce verset 27, il est question du verset 27-28, il est question du temps de Lot. Le temps de Lot. Le temps de Lot, je dirais en même temps aussi, certainement, le temps d'Abraham, hein, puisque Lot est assez inséparable d'Abraham, en tout cas pendant tout un temps. Et ces deux hommes sont proches. Ils sont proches sur le plan familial. Mais à un moment, nous voyons qu'ils ne sont plus proches sur le plan spirituel. Ils vont donc traverser ce même temps qui est désigné dans notre texte par le temps de Lot, mais dans des conditions toutes différentes. C'est vrai que c'était un temps difficile. Et cependant, ce temps est extraordinairement semblable, comparable au nôtre par bien des aspects. Il est important pour nous de relever une dizaine de différences qui expliquent d'une part bien la victoire de l'un, là je parle d'Abraham bien sûr, d'autre part bien, le naufrage malheureusement de l'autre, c'est-à-dire de Lot. Quelle différence? Déjà, en premier, une différence d'engagement. Voyons en effet qu'Abraham part sur une parole de Dieu qui va conditionner toute sa vie. Alors que Lot, lui, va accompagner Abraham, il va voyager avec lui, Du moins, le fera-t-il aussi longtemps qu'il y trouvera son avantage. Mais le jour où il aura l'impression qu'il risque d'y perdre pour lui-même, en demeurant avec Abraham, il le quittera sans remords, hein, c'est ce qui nous est rapporté dans Genèse chapitre 13, au verset 5 et 6. En fait, il n'a pas vraiment appuyé sa vie sur la parole de Dieu. Il ne s'est pas laissé conditionner par la parole de Dieu, il ne l'a pas prise comme règle infaillible de foi et de conduite. Tandis que pour Abraham, c'était le cas d'une façon régulière et d'une façon habituelle. Je relisais cet article qui date d'un petit moment déjà, mais qui garde toute sa pertinence. Donc, je ne sais pas si parmi nous, il en est qui se souviennent des diplomates Marcel Carton, Marcel Fontaine, du journaliste Jean-Paul Kaufmann, du chercheur Michel Seurat. Ces quatre hommes avaient été enlevés en mars et en mai 1985 au Liban. Ils sont restés captifs 3 années, mis à part le dernier qui malheureusement a trouvé la mort durant sa détention. Et Roger Hawke, quant à lui, est resté prisonnier au Liban 319 jours. Il a été libéré à Beyrouth le 27 novembre 1987. Et à plusieurs reprises par la suite, il a eu l'occasion de revenir sur cette période difficile de sa vie. Et voilà ce qu'il rapporte. Dès le premier jour, je me suis retrouvé à genoux sans savoir prier. J'ai demandé à Dieu particulièrement de protéger ma fiancée. Cela a duré plus de 2 mois. Un jour, mes ravisseurs m'ont apporté une quarantaine de livres. Et parmi ces livres, il y avait une Bible de poche. Cette Bible est devenue mon livre de prière. Mes gardiens ont accepté de me la laisser. Dans ce livre, j'ai fait une sélection d'une trentaine de psaumes. J'en appris par cœur une dizaine qui me plaisait particulièrement. Je ne doutais pas qu'un jour je sortirais de prison sain et sauf. J'avais lu dans la Bible que celui qui croit peut déplacer une montagne. Ma libération fut un miracle de Dieu. On a posé à Roger Hawke une question tout à fait déplacée, semblait-il. Regrettait-il ce temps de captivité? La réponse qu'il apporta alors fait réfléchir. Je vais vous dire une chose qui vous surprendra. C'était nécessaire pour que je prenne conscience de Dieu et de son existence. Et tous, qui que nous soyons, même dans ces périodes de confinement, et peut-être spécialement dans ces périodes de confinement, nous pouvons faire la même expérience. Dieu est proche et il répond aux prières de celui qui le cherche vraiment, de celui qui s'attache à sa parole en particulier. N'a-t-il pas promis lui-même « Je me laisserai trouver par celui qui me cherche » de tout son cœur. Voilà, donc Abraham avait basé sa vie sur la parole de Dieu, grande différence avec Lot. Puis une deuxième grande différence, c'est une différence de vision. Abraham voit les choses promises. Nous allons lire quelques versets dans Hébreux chapitre 11, verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et saluées de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Alléluia. Et nous lisons là, ils n'ont pas obtenu les choses promises, au verset 13, mais ils les ont vues et saluées de loin. Ils les ont vues, je retiens cela. Ils les ont vues. Abraham, c'est quelqu'un qui avait une vision de Dieu. Il voyait et discernait la cité de Dieu. Cité de Dieu, c'est cette cité extraordinaire dont il est parlé dans l'Apocalypse, qui nous est décrite avec des détails que Abraham n'a pas connus en son temps, mais malgré tout, eh bien, par la foi, il a vu. cette cité. Il a vu les caractères de cette cité. Et puis, il a vu aussi par la foi la nombreuse postérité que le Seigneur lui accorderait, même si elle se résumait à peu de choses en son temps. Il a vu la patrie céleste. Lot, lui, qu'est-ce qu'il a vu? Il n'a vu que la plaine du Jourdain. Il est marqué dans Genèse 13 et au verset 10, « Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. » Voilà, le problème, c'est que ça allait du côté de Sodome et de Gomorre. Sa seule vision s'est limitée à cela. Ensuite, vous avez eu une différence qui résulte aussi évidemment de cette vision, cette différence de motivation de vie. Abraham vit en fonction de ce qu'il attend. Nous l'avons lu, il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Hébreux 11, verset 10. Et nous le voyons qui vit dans la simplicité, demeurant à l'écart du péché. Il travaille, hein, il n'est pas sans rien faire, il y a des troupeaux dont il faut s'occuper. Il veille aussi, il forme ses serviteurs. Ses serviteurs sont prêts à s'armer pour aller au combat avec lui lorsque nécessaire. Ils sont exercés pour cela. Et voici donc un bel exemple pour nous. Lot, lui, il vit pour lui-même. Dans Genèse 13, verset 11, nous lisons « Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. » Voilà, pour lui. Il n'a pas considéré la parole de Dieu, l'homme de Dieu, l'œuvre de Dieu, mais uniquement ses désirs et ses envies. Et c'est en fonction de cela qu'il a agi. En 1576, le gouvernement anglais avait chargé le navigateur Martin Frobisher d'explorer les mers arctiques dans l'espoir d'y découvrir un détroit qui faciliterait le commerce avec la Chine. Parvenu au sud de la terre de Baffin, il trouva un détroit, en fait c'est un golfe, auquel il laissa son nom, mais sur le rivage, il remarqua également un minerai noir très curieux qu'il ramena en Angleterre. Après avoir confié les échantillons à un spécialiste, il apprit avec surprise que celui-ci avait pu en tirer de l'or. Séduit à l'idée de s'enrichir rapidement, il consacra tous ses biens à l'organisation d'une nouvelle expédition et bientôt il put appareiller à la tête de plusieurs navires vers le lointain et fabuleux rivage. Arrivé à destination, il fit charger le précieux minerai dans les cales au maximum de leur capacité. Et quand plus tard, il voulut en extraire l'or si convoité, cela fut impossible. Le spécialiste en question, un alchimiste italien, s'était moqué de lui. M. Frobisher était complètement ruiné en allant chercher à l'autre bout du monde une cargaison de cailloux sans valeur. Et ne pourrait-on pas faire un parallèle entre la mésaventure de ce navigateur et l'itinéraire de bien des vies? Combien en effet sont prêts à tout sacrifier pour courir après des mirages? L'argent, le pouvoir, la position sociale et tant d'autres choses n'apportent au mieux qu'une jouissance, une satisfaction passagère. C'est lors du bilan d'une vie, face à la mort et à l'éternité, que les vraies valeurs sont perçues et se détachent de ce qui n'a été qu'une illusion. Que peut-on comparer à la joie d'être en paix avec sa conscience et avec soi-même, d'avoir une vie de couple et de famille équilibrée, épanouie, d'avoir pu être utile en aidant les autres quand ils en avaient besoin. En fait, le bonheur véritable et l'espérance qui demeure, dans les bons et les mauvais jours, c'est auprès de Dieu qu'on les trouve. Dieu les accorde à qui vient à lui, du plus profond de son cœur, dans la repentance et la foi en Jésus-Christ, qui est venu effectuer le sauvetage de notre âme et nous accorder le pardon et la vie éternelle. Car Jésus déclare, « Que servirait-il à un homme ?» de gagner le monde entier s'il perd son âme. Eh oui, donc nous voyons donc une différence de motivation de vie. Discerne bien cela. Hein. Et puis je dirais que pendant un temps, peut-être même que Lot aurait pu prétendre « Regardez, je suis plus béni qu'Abraham, n'ai-je pas plus de prospérité que lui ?» Ne suis-je pas comme Adam dans le jardin d'Éden? Quelle folie qui est commise par beaucoup. Mais qu'est-ce qui permet de discerner la valeur de l'engagement d'une vie? N'est-ce pas ce qu'on est prêt à abandonner pour Dieu? Abraham a été prêt à abandonner son pays, sa patrie, la maison de son père. Il a été prêt à sacrifier son fils, son unique, celui qu'il aimait. Il était prêt à faire cela sur la demande de Dieu. Et dans cette occasion, nous voyons qu'il est prêt à abandonner la riche vallée de Sodome et Gomorrhe. Que sommes-nous prêts à abandonner volontairement pour Dieu? Nous avons aussi une grande différence, une différence d'amitié. Abraham est l'ami de Dieu. Nous voyons en fait que Dieu ne peut pas faire autrement que de dire, avant de faire descendre son châtiment sur les villes criminelles de la plaine, quelque temps plus tard, il dit « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» Abraham marche avec Dieu, dans la parole de Dieu, dans la prière à Dieu, dans la communion de Dieu. Mais Lot, lui, est ami du monde. Il fait des compromissions avec le monde. Dans Genèse 13, au verset 12, il est marqué « Abraham habita dans le pays de Canaan. » Et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Et Lot a beau essayer de se convaincre qu'il ne fait pas de mal en s'approchant ainsi du monde et de son péché, il n'en demeure pas moins vrai que l'amitié du monde est inimitié contre Dieu et qu'on ne peut pas courir les deux lièvres à la fois. Ah, les chaînes de Mamré où demeurait Abraham sont la meilleure ou la pire des choses, selon le cœur de chacun. Ils sont le symbole de la mise à part pour Dieu qui se détourne du péché, cette admirable sanctification qui est le gage de la bénédiction d'en haut. Ils sont le symbole de l'amour de la parole de Dieu, de l'amour de la prière personnelle, la prière dans l'assemblée aussi, de l'amour du travail pour Dieu, du travail en communion avec lui. Et combien, ainsi que nous le chantons, il est bon d'avoir ce désir dans le cœur. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on rencontre Dieu, c'est là que la joie nous inonde et que pour nous s'ouvrent les cieux. Je veux quitter les joies du monde et me tenir tout près de Dieu. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on est heureux. Oui, trois fois dans ce petit refrain, ce petit chant, il y a « je veux monter sur la montagne, oui, je le veux ». Donc une différence là encore. Et puis une différence de puissance aussi. Une différence de puissance. Abraham a la capacité de délivrer Lot. Le passage de Genèse 14, versets 14 à 16, nous le montre bien. Abraham va combattre contre de puissantes armées ennemies avec 318 de ses plus braves serviteurs. Et ils vont battre ses ennemis, ils vont délivrer Lot et les ramener. Vous savez, on ne peut agir sur le monde et agir avec puissance sur le monde que dans la mesure où on s'en sépare. Nous voyons là une grande puissance chez Abraham, qui lui vient de Dieu, et pour lui, en vérité, s'accomplit ce jour-là cette parole qui dit, cette parole qui promet, du temps de Josué plus tard, « Un seul d'entre vous en poursuivra 1000, et 7 d'entre vous en poursuivront 10 000. » Mais Lot, lui, n'est d'aucune utilité quand l'ennemi viendra contre Sodome. Il n'a aucune autorité, aucune force, même pas pour sa famille, qu'il n'a pas pu défendre et qu'il n'a pas pu sauver. Et puis en sixième, vous voyez aussi une différence de repentance. Vous savez, Abraham n'a pas été sans péché ni erreur au cours de sa marche dans le pays de Canaan. Mais il a su se repentir de la bonne manière, en reconnaissant ses torts et en revenant sur ses pas jusqu'au lieu où il s'était écarté de la volonté de Dieu. Voilà une vraie repentance. Ainsi, quand il y a eu la famine en Canaan et qu'il a cédé à la tentation d'aller en Égypte, ce qui était un manque de foi en Dieu, en même temps qu'un abandon de la voie de Dieu, bien, parce que Dieu voulait qu'il reste en Canaan. Mais ensuite, nous voyons qu'Abraham s'est repenti. Et cette repentance n'a pas été que des mots, puisqu'il est revenu sur ses pas, il a dressé un autel de repentance et de retrouvailles de cette communion avec Dieu. Abraham était un homme qui savait reconnaître ses erreurs et se repentir véritablement. Or, pour Lot, qu'en est-il? À aucun moment, nous ne voyons reconnaître le moindre tort. Et quand il y a querelle entre ses propres bergers et les bergers d'Abraham, c'est ce dernier qui va céder. Lot, lui, ne lâchera rien. Et quand même Sodome sera détruite, quand il aura tout perdu, à part ses deux filles, nous ne voyons pas revenir vers Abraham, ni crier à Dieu, ni reconnaître le moindre tort, ni se repentir. Mais au contraire, il va aller cacher ses transgressions au fond d'une grotte. Et c'est à cause de cela qu'il ne prospérera point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Vous savez, vous avez ce passage de l'épître de Jacques, au chapitre 4, verset 8, qui nous dit « Nettoyez vos mains, pécheurs ». Vous savez, quand nous nous approchons de Dieu, nous devenons conscients de notre condition. Bon, remarquez que Dieu ne nous demande pas de nous laver les mains avant de s'approcher de nous, parce que tous nos efforts pour nous améliorer nous-mêmes seront inutiles. Pourquoi ? Parce que seule la grâce de Dieu peut nous rapprocher de lui. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Si Dieu met le doigt sur nos défaites, ce n'est pas pour nous condamner, mais c'est pour nous purifier. Il sait que des mains sales permettraient à Satan de nous accuser devant lui, et c'est la raison pour laquelle il nous demande de nous laver les mains afin de ne donner aucune prise au diable, comme il est dit dans Éphésiens 4, au verset 27. Une fois que nous avons confessé nos péchés et que nous avons été purifiés, nous pouvons dire à Satan « Tu ne mettras plus les pieds ici ». Et Jacques continue, dans le chapitre 4, verset 8 toujours, « Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus, ou vous qui avez le cœur partagé. » Vous savez, notre cœur, c'est comme un disque dur. C'est là que nous stockons toutes sortes d'informations. C'est en croyant du cœur, est-il dit, Romains chapitre 10, verset 10. Notre cœur génère, emmagasine, toutes nos convictions personnelles, à la fois celles qui sont constructives et nous aident à avancer dans la vie, mais aussi celles qui sont destructrices. Une fois que vous êtes forgé une conviction, vous mettez à l'appliquer dans votre vie. Ajoutez à cela que nous avons tendance à être inconstants, que si nous refusons la résolution d'être fidèle, alors c'est vrai, on peut même savoir ce qui ne va pas en nous et on pense pouvoir continuer comme ça, impunément. Mais comment est-ce qu'on va pouvoir vaincre l'ennemi si notre cœur est rempli de mauvaises convictions et si notre esprit aussi sans cesse entre deux attitudes ? Non, il faut toujours commencer par s'approcher de Dieu et lui dire « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ou fais renaître en moi un esprit bien disposé. » Psaume 51, verset 10. Et en entendant cette prière, Dieu viendra vous purifier, vous revêtira de sa puissance et fera en sorte que vous puissiez marcher également en vainqueur. Béni soit son nom. Amen. Et si j'avance encore, je m'aperçois qu'il y a aussi une différence de sacrifice filial. Eh oui, quelle grande différence! Abraham est capable d'offrir son fils en sacrifice à Dieu. C'est le sujet en particulier de Genèse 22, versets 1 à 10. Et c'est l'image de ceux qui, marchant dans la piété, d'eux-mêmes, offrent leurs enfants au Seigneur en sacrifice pour son service et pour sa gloire. En fait, il s'agit là, en réalité, du meilleur moyen de les garder pour Dieu, tout en faisant confiance au Seigneur et en leur faisant connaître et trouver la vie véritable. Mais Lot, quant à lui, n'est capable que d'offrir ses filles à la perversion des habitants de Sodome. Dans Genèse 19, verset 8, nous lisons... Voilà ce qu'il dit, tout ce qu'il trouve à dire, c'est « Voici, j'ai deux filles qui n'ont point connu d'homme, je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qui vous plaira. » Ainsi est-il amené à tellement mal s'occuper de sa famille. Dans 1 Timothée 5, verset 8, il dit « Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. » Et puis nous avons aussi, bien sûr, en même temps, une différence de position spirituelle. C'est notre huitième point. Abraham, c'est l'homme qui se tient dans la présence de Dieu. Dans Genèse 18, au verset 22, il est marqué « Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. » Oui, c'est vrai. C'était pour lutter, c'était pour prier, mais c'était sa joie. C'était ça, son plaisir. C'était tout ce qui avait de la valeur pour lui ici-bas. Je méditais encore sur ces réflexions et aspirations d'un homme de Dieu qui a vécu au XIIe siècle. Et voilà ce qu'il écrit, ce qu'il nous a laissé, qui nous est parvenu. Voilà ce qu'il dit. Il dit « Suivons l'exemple des passions du siècle. Avons-nous jamais vu l'ambitieux content des honneurs qu'il a acquis? Ne plus penser en acquérir de nouveau? L'œil du curieux ne se rassasie pas de voir, ni son oreille d'entendre. Alors nous, ayons honte d'avoir moins d'empressement pour les biens spirituels. l'âme convertie au Seigneur doit rougir d'avoir moins d'ardeur pour la justice qu'elle n'a eu précédemment pour le péché. Car la chose est bien différente, puisque les gages du péché, c'est la mort, et que le fruit de l'esprit, c'est la vie éternelle. Ayons donc honte d'aller à la vie avec plus de lâcheté que nous n'avons eu été auparavant à la mort, et de travailler moins ardemment à notre salut que nous ne l'avons fait pour notre perte. La véritable vertu ne s'arrête point. Elle n'a point de temps limité. Le juste ne croit jamais être arrivé au but. Jamais il ne dit « c'est assez ». Il est toujours affamé et altéré de la justice. En sorte que, s'il vivait toujours, il s'efforcerait toujours d'être plus juste. Il tâcherait de croître de plus en plus dans le bien. Car il n'est pas comme un mercenaire qui s'engage pour un an ou pour un temps limité au service du Seigneur. C'est pour toujours. Tous les fidèles seront unanimes avec lui lorsqu'il s'écrie « Si mon iniquité est grande, ta grâce est beaucoup plus grande. Lorsque mon âme est troublée par la vue de sa corruption, je regarde à ta miséricorde et je suis restauré. » Qu'il se réjouisse, celui qui se sent misérable et digne d'une condamnation perpétuelle, car la grâce de Jésus excède la grandeur et le nombre de tous les crimes. « Ma peine est trop grande, disait Caïn, pour que j'espère un pardon. » Loin de nous cette pensée. La grâce de Dieu est plus grande que quelque iniquité que ce soit. Il est véritablement pitoyable, miséricordieux, abondant en gratuité, prompt à pardonner. Être bon, c'est sa nature. User de miséricorde, c'est sa perfection. Aussi n'est-il point appelé le Père des vengeances, mais le Père des miséricordes. Ah oui, c'est vrai. La communion avec Dieu, quelle grande chose. Mais où était Lot ? Où était Lot pendant ce temps-là, pendant le temps où Abraham se tenait devant Dieu ? Bien, ça nous est dit un peu plus loin. Dans Genèse 19, verset 1, il est marqué « Lot était assis à la porte de Sodome », c'est-à-dire en compagnie de ses autorités méchantes d'une ville inique, et il participait à la prise de décisions injustes et mauvaises qui amenaient le jugement de la part de Dieu. En fait, Lot a agi à l'inverse de ce qui est marqué dans le psaume 1er, où il est écrit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Quelle différence de position spirituelle donc. Et puis vous avez encore une différence d'intercession. Abraham est capable d'intercéder auprès de Dieu. Et ça nous est expliqué, décrit dans Genèse 18, versets 23 à 33, où nous le voyons qui, on pourrait presque dire, marchande avec Dieu. Le nombre de justes, à partir desquels Dieu n'enverra pas son jugement sur ces villes rebelles et coupables. Et nous voyons qu'Abraham s'est arrêté à 10 justes. Alors certains penseraient peut-être qu'il aurait dû aller plus loin et aller, je ne sais pas, jusqu'à 5 ou jusqu'à 2. Mais probablement, Abraham pensait-il qu'au moins Lot avait travaillé au salut des siens. Il devait être au moins 10. Mais malheureusement, ce n'était pas le cas. Mais voyez la misérable intercession de Lot auprès de ses frères, ceux qu'il appelle ses frères. Mais ce sont les habitants de Sodome, en fait. Et nous voyons bien qu'il n'obtiendra de leur part que le mépris. Un mépris qui, d'ailleurs, est justement attribué à ceux qui sont tièdes dans les choses de Dieu. Que nous puissions donc être de ceux qui luttent de tout leur cœur dans la prière pour le salut des âmes et la gloire du Seigneur. Enfin, évidemment, en dixième, nous avons une différence de foi. Considérez la foi d'Abraham qui est citée en exemple. Malgré des moments de grande difficulté, nous allons lire encore le passage de l'Épître aux Romains, au chapitre 14 et au verset 17, parce qu'il insiste tellement sur ce modèle de foi admirable qui se trouve en Abraham. Romains, chapitre 4, verset 17. Donc Dieu lui dit « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Alléluia. Vous voyez bien, au verset 17, il est dit « celui auquel il a cru Dieu ». Verset 18, « espérant contre toute espérance, il crut ». Verset 19, « sans faiblir dans la foi ». Verset 20, « il ne douta point par incrédulité ». Verset 20 encore, « mais il fut fortifié par la foi ». Et puis enfin, verset 21, « ayant la pleine conviction ». Voilà, la foi d'Abraham. Mais qu'en est-il de Lot ? Voyez la faiblesse de sa foi dans cette prière qu'il formule en s'en allant de Sodome. Hein, c'est dans Genèse 19, versets 19 et 20, quand il demande à pouvoir se réfugier dans une petite ville qui se trouve là et puis qu'il invoque des raisons. En fait, c'est un condensé, je ne vais pas lire le passage, mais un condensé de pitié de soi, d'incrédulité, de peur, de mise en doute de la parole de Dieu, d'égoïsme et de désobéissance. Voilà. L'Épître aux Hébreux, en conclusion, l'Épître aux Hébreux nous laisse entendre que le juste Lot, dans Sodome, tourmentait journellement son âme à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs actions coupables et de leur conduite criminelle. Au moment où notre texte en parle, il était encore juste. Mais l'est-il resté par après ? C'est une grande question, cela. Parce que les derniers renseignements que nous avons à son sujet nous montrent malheureusement un ivrogne au fond d'une caverne pratiquant l'inceste. Est-ce là encore la position d'un croyant ? Alors, nous n'avons pas toute la réponse à cette question, mais que le Seigneur nous garde en tout cas d'avoir une fin semblable à la sienne. Tournons-nous plutôt vers Abraham. Abraham obéit et partit sans savoir où il allait, mais il marchait dans la voie de l'obéissance, qui est celle de la bénédiction. Que d'exemples de cela nous avons dans la parole de Dieu ? Rappelez-vous de cette veuve qui se trouvait dans la détresse et qui est allée voir le prophète Élisée. Le prophète Élisée lui a dit qu'elle devait aller chercher les vases chez tous ses voisins et puis que l'huile allait se multiplier dans les vases. Que serait-il passé si elle n'était pas allée, si elle n'avait pas obéi, si elle n'avait pas cherché, je ne sais pas moi, à cause de la honte du voisinage ? Mais elle a obéi et nous savons comment Dieu a fait le miracle. C'est dans 2 Rois chapitre 4 verset 3. Et les âmes sont des vases qui doivent être remplis d'huile du Saint-Esprit. C'est aussi ainsi que nos enfants pourront être rachetés de l'esclavage du péché. L'obéissance produit la bénédiction et contribue puissamment au salut. Dans 2 Rois chapitre 5 au verset 10, il est question de Naaman le Syrien. À un moment, le voilà qui s'en va en colère parce que les choses ne se sont pas passées comme lui aurait pensé. Parce qu'il n'a pas été honoré probablement comme il l'aurait souhaité. Mais malheureusement pour lui, donc il s'en va en colère. Heureusement pour lui, il a ses serviteurs. Les serviteurs vont le ramener à la raison, lui dire qu'il obéisse. Et il l'a fait et nous savons comment Dieu a agi miraculeusement pour lui. Et je dirais que le travail des prédicateurs, des serviteurs de Dieu, c'est aussi cela, c'est de parler comme ces hommes ont parlé à Naaman. Ils lui ont dit, mais si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait ? Alors, combien plus forte raison si tu demandes quelque chose de peu facile ? Obéis simplement. Vous savez, le travail des prédicateurs, c'est cela. C'est d'appeler aussi eux-mêmes et d'autres autour d'eux et avec eux à obéir. À obéir pratiquement. Je ne sais pas, obéir pour ce qui concerne le baptême ou ce qui concerne d'autres obéissances physiques. Est-ce dur d'obéir ainsi ? Non, non, en fait non, seulement pour les orgueilleux et les rebelles. Sinon, eh bien, le résultat, c'est la bénédiction, la guérison et le salut pour ceux qui obéissent. Même Jésus, d'après l'Épître aux Hébreux au chapitre 5, a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et c'est aussi parce qu'il pouvait dire « je fais toujours ce qui lui est agréable » qu'il pouvait également dire « Père, je sais que tu m'exauces toujours. » C'est parce que le centenier au serviteur malade avait compris la valeur de l'obéissance qu'il a obtenu la guérison de son serviteur et que Jésus a pu dire de lui qu'il avait la plus grande foi qu'il ait jamais vue en Israël. Dans Jean chapitre 3, verset 36, il est marqué « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. » Celui qui ne croit pas au Fils Et là, la version Darby écrit « Celui qui désobéit au Fils ». Intéressant, hein ? Ceux qui ne croient pas au Fils, qui désobéit au Fils, ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Et dans Luc 8, verset 21, Jésus dit « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique », c'est-à-dire qui y obéissent. Dans Luc chapitre 6, au verset 47 à 49, nous avons la parabole des deux maisons, l'une construite sur le sable, l'autre sur le roc. Et il s'agit là, bien sûr, de croyants. Il s'agit là, bien sûr, de l'image de croyants et de la façon dont on construit sa vie. Alors, vous avez l'un qui met en pratique, qui obéit à la parole et construit sur le roc. Ce n'est pas toujours facile, c'est long, ça parfois... fatigant, il faut de la persévérance, de la persistance. L'autre ne le fait pas, par intérêt à courte vue, par paresse, par recherche de la facilité, que sais-je. Vous savez, la fin d'un chrétien, ça peut être soit une résistance, soit une ruine. Et il faut que nous soyons éprouvés. C'est ainsi que nous voyons que l'obéissance garantit la victoire dans l'épreuve de la vie, dans l'épreuve de la foi, et manifeste l'entrée au ciel. C'est nous qui récoltons ce que nous semons. Dans Galates chapitre 6, verset 7, il est marqué « Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Et je dirais même, c'est nous qui déterminons l'importance de notre moisson, ce n'est pas les autres. Peut-être après avoir donné généreusement, sans rien recevoir, vous êtes demandé si ce qu'un homme a semé, il le moissonnera aussi, est toujours d'actualité. Alors réfléchissez au point suivant. Déjà, vous ne moissonnerez pas toujours à l'endroit où vous avez semé. Vous ne moissonnerez jamais immédiatement après avoir semé. Par contre, vous moissonnerez toujours ce que vous avez semé. Si vous soutenez, une cause missionnaire, ne vous attendez pas à voir le fruit de vos semailles. D'ailleurs, ça vous évitera d'être déçu par la réaction des autres, puisque vous n'attendez rien en retour. Vous n'avez de compte à rendre qu'à Dieu, parce que c'est lui seul qui va multiplier votre semence et vous enrichir, comme il est marqué dans 2 Corinthiens 9, verset 11, vous enrichir à tous égards pour toutes sortes de libéralités. Remarquez les mots « à tous égards ». Ça veut dire que vous serez enrichi dans tous les domaines. Votre famille, votre santé, votre carrière, etc. Semez et Dieu multipliera. Notez aussi, rappelons aussi que vous ne moissonnerez pas tout de suite après avoir semé. Je pense que c'est une idée difficile à assimiler si on est pressé ou si on n'a pas beaucoup de patience. Mais le royaume de Dieu, c'est quelque chose qui se développe saison après saison. Et si nous respectons son cycle, nous serons bénis aussi. Que penseriez-vous d'un fermier qui sèmerait dans la journée et qui passerait la nuit suivante à observer son champ pour voir les graines germer afin de moissonner l'après-midi suivant ? On se serait le premier à penser que c'est un insensé. Et les Écritures affirment « Jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. » Avec le temps. Ecclésiaste 11, verset 1. « Et vous recevrez votre moisson à la bonne saison, celle décidée par Dieu. Une chose est certaine, ce que vous semez, vous le moissonnerez vraiment. » Que le Seigneur nous aide dans cette obéissance pleine et entière, comme Abraham l'a manifesté. Amen. Te remercions, Seigneur notre Dieu, en effet, pour ta fidélité et ta grâce. Te remercions pour ta bonté, ton amour, Seigneur. Et nous te remercions parce que tu es celui qui nous soutient, qui nous fortifie aussi, afin que nous puissions nous aussi manifester ces différences qu'il y a eu entre Abraham et Lot de manière positive et constructive pour chacune et chacun d'entre nous. Spécialement ce soir, puisque nous parlons aussi de prière, en ce qui concerne la prière de la foi, béni sois-tu Jésus. Merci pour le secours et le soutien que tu donnes à chacun d'entre nous pour cela. Amen. Amen. Voilà, frères et sœurs, je me permets de vous rappeler notre WhatsApp de prière demain soir pour le partage des principaux sujets que chacun a à cœur, sujet de prière. Notre prochain rendez-vous autour de la parole de Dieu doit se tenir vendredi soir pour l'annonce de l'Évangile. Alors, je vous rappelle que la semaine prochaine, en fait, dans 8 jours, le mercredi 10 à 20h15, sauf imprévu, nous aurons notre réunion de reprise, réunion de prière de reprise à l'église pour ceux qui le voudront et le pourront. Si pour certains c'est encore trop tôt, pour diverses raisons, nous continuerons à laisser les prédications du vendredi et dimanche en ligne sur notre site. Le mardi soir, il n'y aura plus de prédication en ligne à ce moment-là, mais celle du mercredi soir à l'église serait enregistrée et mise à disposition donc à la place dans les prochains temps. Alors, si tout se passe comme prévu, quel va être le déroulement des opérations mercredi soir dans 8 jours ? Parlons-en un petit peu. L'idéal serait que chacun arrive à l'église, mette son masque, respecte la distanciation physique en tenant compte du marquage qu'il y aura sur le trottoir, tous les mètres. Donc à l'entrée, dans le sas extérieur, il y aura un frère qui sera derrière une petite table carrée avec de la solution hydroalcoolique. Il faudra en mettre sur ses mains. Et en entrant dans la salle, on vous dirigera vers une place ou plusieurs si vous êtes confiné avec d'autres, en suivant le fléchage au sol. On est obligé d'agir comme ça pour limiter au maximum les croisements et les contacts physiques dans le local. Il faudra garder le masque pendant la réunion. Le prédicateur au micro pourra l'enlever parce qu'il a une distance, il y a une distance de 3 mètres de sécurité devant et autour du micro. Mais s'il quitte le micro, il faudra mettre le masque comme tout le monde. Donc à la fin de la réunion, il faudra aussi attendre les instructions. Et ceux qui sont au fond sont invités à sortir les premiers. Il faudra reprendre du gel hydroalcoolique en sortant. La petite table sera à l'intérieur cette fois-ci. Et en sortant de l'église, il faudra veiller à ne pas faire de bouchons ou de regroupements devant. Alors rappelons-nous, frères et sœurs, qu'il s'agit d'une période transitoire. Il faut y passer. Ça va s'améliorer. Le Seigneur est fidèle. Il va nous secourir dans tout cela. Que Dieu vous bénisse en attendant et à bientôt.